podcast.com. Essaye ça.
Wow, hein? Moi, j'ai jamais joué à ce jeu-là. C'est non. Shadow of the Colossus, ce qui joue en background. Oh. Moi, je sais c'est quoi exactement. Et j'ai peut-être un espèce de petit fait spécial à propos de ce jeu-là. C'est que ça l'a, selon Kotaku, c'est le premier jeu qui a été impliqué directement dans une diégèse de long métrage. Dans le sens que dans un film qui mettait en vedette Adam Sandler, puis le noir qui fait Capitaine America, Falcon. Le pas capitaine Chatman.
Ouais, le gars qui vole.
Non, c'est pas vrai, c'est lui qui est mort. En tout cas, ben dans ce film-là, ça commence bien. Mais dans ce film-là, les personnages jouent au jeu Shadow of the Colossus et c'est une métaphore à la diégèse de combat personnel que les deux sont en train de vivre. Et ça l'a été à l'époque 2007-2008, ça l'a été recommandé, ça l'a été mis de l'avant, ça l'a été mentionné. Donc, Shadow of the Colossus en background soir. Pour
c'est un bon jeu. Ça implique d'attraper beaucoup de choses. Tu grabes beaucoup. Tu vois. Il aurait pris cette mécanique-là dans le dernier Zelda, d'ailleurs.
Ah ouais, tu grabes en tabarnak là-dedans.
Ouais, c'est ça.
Ta petite boule ronde, là, puis là, t'arrives en haut de la falaise.
Ton stamina, là, tu sais.
Un à côté.
Ça vient de là.
Voilà, on va quand même parler de Kaldheim. On est surtout à terrain basique, un podcast sur Magic the Gathering. Il est très, très québécois. Sens-moi un beau tabarnak, Jason.
Tabarnak.
Bateau.
Mon anecdote sur Shadow of Colossus, quand c'est sorti, moi je travaillais de nuit. Puis tu sais, quand tu travailles de nuit, tu es censé te coucher à un moment donné là, pendant la journée. Là.
Ouais.
Et Shadow of Colossus m'en a fait manquer une coupe.
Oups.
Parce que c'est un jeu qui est long.
Fait que t'as fait des jours blancs.
Ouais.
Hein?
À essayer, parce que c'est un jeu de puzzle. Hein.
Ouais.
Ouais, c'est qu'il faut que tu tues des gros démons en trouvant une série d'étapes de choses à faire.
Les points faibles.
C'est un petit peu comme quand que tu joues un tournoi Magic de Kaldheim.
Exactement.
La date, t'as une fiche victorieuse, puis que tu peux comme te pavaner en public, puis le mentionner dans ton podcast de Magic à date. Ça va crissement bien tes affaires dans le tournoi organisé. Puis d'ailleurs, ça a très bien été. Hein. Merci beaucoup, Andy, ouais. D'avoir monté ça et vous d'avoir participé. J'ai beaucoup aimé ça, faire ça sur le Twitch et tout. On a uploadé tout ça sur le YouTube de Terrain Basique que vous devez suivre certainement religieusement pour y voir les beaux montages que Jason fait et qui implique toutes les cartes desquelles on va parler, parce qu'on termine aujourd'hui. Non seulement on va faire un petit tour de table avant une carte de la semaine que c'est moi qui ai choisi dans mes tripes en sang du petit Jérémy sur une banquise, mais on va aussi finir le tour de table. Emmanuel, c'est quoi qui s'est passé, là?
Ben écoute, on s'est saucé dans le Kaldheim pour la première fois. On a joué un peu. On s'est fait le petit seal de vendredi. Je m'en suis refait un sur le côté. J'ai checké aussi le monde, qu'est-ce qui se passe dans les standards, les nouvelles cartes. Je vous le dis tout de suite, là, la nouvelle affaire qui est tuée Magic. On en a parlé déjà, ça a été notre première carte de la semaine de Kaldheim. C'est Tybalt Trickery. On l'avait vu venir. moi, j'ai regardé, tu sais, il y a toujours le Early Access Event avec les streamers le mercredi, là, avant de la journée, juste avant que le set sorte. Puis j'ai regardé pas mal Day9, là. Je vous le recommande d'ailleurs si vous aimez regarder du monde jouer à Magic. Il joue pas seulement à Magic, là, c'est un variety streamer, mais il fait quand même pas mal de Magic. Puis il est très.
On a écrit ça Day9.
D-A-Y-9. 9 le chiffre. Bon. Okay. Ouais. C'est un des plus anciens, là. Il était là dans le temps de Justin TV, là. C'est comme le premier qui a eu un subscriber Twitch, là, genre, tu sais, ouais. Bref, tout ça pour dire que lui, à un moment donné, il s'est mis à brewer justement pour faire un deck autour de Tybalt Trickery, puis il est arrivé avec quelque chose qui avait étonnamment beaucoup de succès, parce que tu te dis, c'est une carte très jank, là, très, tu sais, avec beaucoup de variantes, très random. Puis il est revenu avec sa liste le lendemain, puis il l'a essayé en standard et tout ça, puis il a réussi à faire un deck qui a comme un win rate de genre 60%. Là, tu sais.
Fait que c'est quoi la carte qui counter lui-même?
Tormod's Crypt.
Ton mode crypt qui coûte zéro.
Qui coûte zéro. En fait, c'est, il jouait aussi avec les Stone Coil Serpent.
Ok, oui.
L'artefact que tu peux payer pour X.
Zéro,
fait que tu payes zéro. Fait que il y a ça.
Puis, ah, c'est un deck de zéro.
Ben, il y a deux. C'est les deux cartes, dans le fond, qui coûtent zéro. Puis sinon, c'est juste des grosses affaires. Genre Yugen, the Spirit Dragon.
Okay, ouais,
okay, ouais. Koma, le nouveau serpent. Ouais. Il avait mis des Kiora, Best of the Sea God. Ouais, Genesis Ultimatum. Ça, c'était ridicule. La fois que tour 2, il Tyball Trickery à un Tormod Crypt pour aller faire un Genesis Ultimatum qui te fait voir 6 cartes, il met 4 lands en jeu, un Yugen de Spirit Dragon, puis il mettait aussi le Planner Bridge, le côté B de la DS qui fait qu'au début de chaque tour, tu mets une carte en jeu gratis. C'était ridicule. C'est juste complètement ridicule, puis pour vrai, jouer, c'est... Pis, mais c'est un deck qui profite beaucoup du London Mulligan.
Ouais.
Parce que c'est le premier deck qui vraiment profite beaucoup en standard. T'sais, on en avait parlé quand le London Mulligan était sorti, que ça avantageait les decks de combo beaucoup. Puis que c'était beaucoup dans les formats modernes, Legacy, etc. Là, c'est vraiment le premier qui réussit à comme l'exploiter à son maximum. Parce que dans le fond, tu peux mold quasiment jusqu'à deux. Pour t'assurer d'avoir comme ton payoff dedans, ton Tyball Trickery, puis après ça, tour 2, 3. C'est un peu niaiseux comme deck, c'est vraiment pas le fun à affronter. Mais ça reste quand même random. S'il frappe pas, c'est des games qui finissent vite.
Mais il y a tout le temps ça.
D'une façon ou d'une autre.
Il y a tout le temps ça dans les débuts de saison. Là, la première semaine d'un standard, tu as tout le temps le deck loop.
Ah ouais, on se rappelle de
la même chose
de Gairuda, Gairuda ouais. Avec Ikoria. Ouais, ouais.
On va voir combien de temps ça va tenir.
Je ne sais pas si ça va
tenir. Ça n'a jamais été, on sait qu'il va y avoir de quoi d'invincible qui va sortir la soirée que le set sort avec la carte que tout le monde savait qu'il y avait de quoi. Il y a quelque chose qui fait que tu peux avoir un Yujin en jeu au deuxième tour. Ça n'a jamais été ça. Là. Ton affaire de Gerudo, c'est sûr, c'était rock'n'roll. Ouais. Mais t'étais au 4-5e tour à un moment donné. Là.
Non, t'as raison.
Effectivement.
Pour ça alors.
C'est ça qu'ils ont fait là. Magic, c'est quoi? Ils veulent... On dirait que Wizards of the Coast sont comme autour de Magic. Là, puis là, Magic, il est à terre. Tu sais, puis là, il essaie de se relever, là, comme dans Dragon Ball. Puis là, eux autres, ils donnent des coups de pied dans Magic. Quand même.
Ils remettent un pied sur le dos. Là.
Ah oui, c'est ça. Non, Magic, reste ta face dans ton vomi. Calisse. Mais sinon, il y a quand même des j'aime beaucoup ce que Fortel amène dans le jeu. Je trouve qu'Adapt,
c'est
très, très, très plaisant. C'est le fun aussi que finalement, il y a un removal général dans le noir. Moi, je l'ai beaucoup aimé pas dans le tournoi qu'on fait, parce que dans le tournoi, là, je suis plus couleur élémentale, là, vert, rouge, bleu. Mais dans des drafts que j'ai fait on the side, c'est 4 colorless, 2 noirs.
C'est quoi Blood on the Snow, c'est ça? Blood.
Je suis pas bon pour les noms. Je me rappelle tout le temps les
Blood on the Snow, 4 colorless, 2 noirs. Choose one, c'est un snow sorcery. Soit détruire toutes les créatures, soit détruire toutes les planeswalkers. Et en plus, tu peux retourner un creature au planeswalker avec un converted mana cost de X. Ou moins, ou X est le nombre de snow mana que tu as tapé sur le battlefield de ton graveyard.
Ça t'amène à, je veux dire, les snow, c'est le fun aussi. Là. Moi, le Ice Hide Troll, qui est 2 colorless, 1 vert, 2-3, puis tu payes 2 mana snow. Il gagne +2/+0 et indestructible jusqu'à la fin du tour et tu le tapes. Moi, j'ai eu beaucoup de succès. Mais
tu l'avais bien collé, hein, que ça allait être fort.
Ouais. Mais effectivement, cette ligne-là, ces lignes-là, choose one, destroy all creature ou destroy all planeswalker, c'est quelque chose qu'on est habitué de voir dans le blanc.
Oui, ça va bien de ramener ça.
Mais non, le noir a tout le temps tué les planeswalkers.
Oui, mais tu sais, détruire tout comme ça, faire un espèce de wipe.
Même pour 6, il aurait pu dire tu détruis toutes les créatures et toutes les Planeswalkers.
Choose one or both.
Juste, ouais, c'est ça, one or both.
Une carte, je pense que toi et moi, on a bien aimé les deux. On se les ramassait dans notre deck de seal, le chariot de chat. Hein, le chat Rio. Et si casse chariot, ouais, c'est pas pire.
La face à guise, ben, je l'imaginais, là, mais t'aurais dû y voir la face. Si t'avais pu y voir, ça devait être débile.
Il me semble, une fois sur le board, là, vous irez checker notre game sur YouTube. Je pense qu'il y avait comme il y avait 10 chats sur la table à nous deux parce que les deux, on l'avait en même temps. Là.
J'ai uploadé sur YouTube, c'est vers le trois quarts du vidéo. Là, allez voir ça vaut la peine. Les faces que Tommy fait quand il sort ses chats. Là.
Il est content. Là. C'est rare que je suis content de voir des chats. Moi, là, j'en profite. Là. Ça prend bien Magic. Ça.
C'est tranquille sur tes allergies aussi, ces chats-là.
Ben oui, c'est ça. Tu peux lui dire, ils t'écoutent, eux autres aussi. Là. Tu lui dis attaque, puis ils attaquent. C'est pas comme tu lui dis attaque, puis ils commencent à te licher. Là.
Toi, Eman, tu dis que Boast, ça t'a laissé sur ta faim, Boast?
Ouais, ben, j'étais déjà pas très chaud à le dire. Ben, je trouve que c'est le fun. J'aime ça quand il amène une mécanique qui force le monde à attaquer. Genre Exert, des choses comme ça, sauf que ça a souvent très peu d'incidence sur une game, le boast. Je pense que le fait que tu puisses le faire seulement une fois, ça limite beaucoup son power, son potentiel.
Il y a une fois, moi, que j'ai... Fait que
ça peut faire des dynamiques intéressantes à cause de ce qu'il appelle le Threat of Activation, mais... sur quelques cartes, c'est vraiment. Sur quelques cartes, le boss est vraiment cool. Genre celui qui crée des dragons. Le petit loup, c'est cool. C'est cute. Le 1-1 avec First Strike. Il fait plus 2, plus 0. C'est un excellent one drop. Mais en général, sur une game, ça.
C'est le boss que j'ai eu le plus de succès avec, moi, c'est l'ange 4-3 Flying, l'ange Berserk. Là. T'attaques, puis là, tu peux sacrifier une créature, puis l'autre, il faut qu'il sacrifie une créature. Fait que, là, tu sors des petits whippets, puis c'est pas pire là, aussi quand que le boss est sur une carte qui coûte un peu plus cher. Ça veut dire que souvent, le tour d'après, t'as le mana de lousse pour l'utiliser. C'est pas comme
effectivement.
Mettons, ton boss, souvent, tu vas attaquer pour faire un dommage, vu que l'autre, il prendra pas le risque de le faire de
tu veux pas toi, hein. Tu veux pas te coûter le tempo non plus. Là.
Exactement, c'est ça.
Ouais, par contre, Fortel.
Ça, c'est le fun.
Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais.
T'as-tu un feeling de morph, Tommy?
Non. C'est parce que morph, que ce soit des monstres 2-2, on dirait que c'est comme plus là. Genre, tu sais, ça, c'est d'avoir une main autrement. Puis je pense qu'il y a plein de manières d'utiliser cette dynamique-là avec des vieilles cartes, des affaires qui font jeter les mains de tout le monde ou des affaires de même que c'était peut-être un petit peu moins bon avant. Mais que là, si t'as le temps de te foretell 2-3 cartes, parce que t'as même des monstres que tu peux foreteller. Fait que, mais tandis que Mutation, là, c'est tout le temps, mettons, 3 colorless pour un 2-2. Déjà, c'est comme un peu plate à payer dans une game de Legacy Rock'n'Roll.
Ouais.
Puis là, après ça, souvent, t'as plus le mana qu'il faut pour la flipper en surprise. Fait que, je trouve que c'est plus intéressant pas mal que Morph.
Foretell, ouais. Puis c'est vrai que ça fait c'est vraiment l'impression que t'as une deuxième main.
Ouais, puis ça te fait souvent quelque chose à faire avec ton mana. Tu sais, mettons, en limited, des fois, il te manque une couleur, tu sais, mais t'es pas capable de la casser, ben tu peux te la mettre de côté pour plus tard. Tu sais, tu utilises ton mana parce qu'après ça, ça te donne un rabais dessus. C'est le fun.
Moi, j'ai aussi pogné souvent il s'appelle Aegar de Freezing Flame, là, le géant qui va les unir, celui qui fait qu'à toutes les fois,
la 3-3.
Une créature, un planeswalker de l'adversaire qui meurt si il s'est fait faire un excès de dommages par un spell que toi t'as casté, par un géant ou un wizard. Tu peux piger une carte, c'est un 3-3 pour un colorless, un bleu, un rouge. J'ai eu beaucoup de bons succès avec lui, Adam.
L'archétype rouge-bleu, Giant, là, il est très fort, ça. Puis, j'en avais glissé un mot avec Marc-Antoine, là, on n'a pas trop parlé, là, mais parce qu'on n'était pas sûr ce que ça allait le faire, là, mais Five Color Snow, là, ça existe. Ouais. Ça existe et c'est fort. Ouais, ça existe et c'est fort. Si t'es capable de le drafter sur ta, sur ta table, là, ça, tu vas te faire un bon deck.
C'est ouais, du genre à partir du 3-4e tour, s'il n'y a pas de carte activée par des pouvoirs snow, tu prends n'importe quel snowland à partir de là. Ouais,
on pourra en reparler ça dans un prochain épisode. Là,
ben mais... oui, si tu me donnes le goût, hein, je vais aller m'en faire un draft, moi, pendant qu'on enregistrerait basé.
Toi, Jason, t'as-tu quelque chose à...
Oui, moi, j'ai... Toi, Tommy, tu m'as déjà mentionné, tu sais, on va rester dans le thème de la tempête de neige. tu m'as déjà mentionné, Tommy, que tu étais un gros fan de la carte Stormbind.
Oh. Ouais,
un gros fan.
C'est bizarre à l'époque que ce soit trois colorless, un vert, que ce soit une carte verte qui a ce pouvoir-là, je trouvais ça bizarre.
C'est un colorless, un rouge, un vert, oui. Écoute, jeudi passé...
Je mélange avec Stormseeker, moi, oublie ça. Là. Ouais, ben, Stormbind, je suis un fan, oui, effectivement.
Oui. Donc, tu te mélanges avec Stormseeker. Stormbind, c'est un colorless, un rouge, un vert. Ça vient de Ice Age. On a fait un tournoi old school jeudi passé avec les Tundra Wolf thématique Ice Age. Puis, je m'étais bâti... Ben, Stormbind, c'est vraiment simple. C'est un enchantement. Tu payes deux colorless. Tu discartes une carte au hasard. Puis, ça fait un choc sur une créature ou un joueur. Donc, je m'étais bâti... un deck autour de 4 Stormbind, des Howling Mine pour piger plein de cartes, des Black Vise. Vous mentionnez, vous rappelez il y a une semaine, j'avais mentionné qu'il y avait ce tournoi-là qui s'en venait là, de Ice Age, puis j'étais pas sûr si ça allait être majoritairement des decks de Necro ou des decks de Force of Will, Counterspell, Mono Bleu. Fait que j'ai pris la décision de viser les deux, là, de mettre entre le noir et le bleu, c'est-à-dire rouge et vert. Avec Stormbind, tu peux pas contrer un Stormbind quand tu utilises l'effet. Là. Dans le fond, tu piges une carte, tu la pitch comme un choc. Puis c'était complété par des Black Vise parce que je me suis dit, bon, principalement, tu sais, Black Vise, ça empêche les gens de jouer de Necropotence. Là. Ils peuvent pas se faire des grosses mains de cette carte. Puis je jouais Howling Mine, des spells de burn. Puis vous voyez, moi, j'avais prédit là, que le méta allait être bleu. J'ai deux Pyroblasts, c'est des Counter Target Blue Spell, que j'ai joué main deck, il faut être confiant. Là.
Ouais.
Dans mon sideboard, j'avais mis 4 Red Elemental Blast puis un Pyroblast. Fait qu'en tout, là, j'avais 7 Red Elemental Blast dans le fond. J'étais préparé pour du bleu, puis ça n'a pas été assez.
Les Counter Spell avec une brique, puis un fanal, puis un Pyroclasm.
Ouais.
Ça t'en aurait plus?
Ben, je pense que c'était correct ce que j'avais, là, parce que dans le fond, j'ai fini 3e. J'ai perdu un seul match. J'étais contre François Derbas, qui est devenu un terrain basique. Ah. Lui, il jouait la totale. Là. Il jouait mono bleu, 4 Counterspell, 4 Arcane Denial, 4 Force of Will. Tout ce qui était Counterspell, il l'avait mis dans son
quelque
deck.
Quelque chose de le fun.
Puis, c'était très de son deck, parce que dans le fond, c'était un deck de 1000. Là. Puis, il a réussi à me miller. Mais là, il y a eu un problème informatique. Son Wi-Fi a lâché, fait qu'on a juste joué un match, mais je l'ai perdu. Mais je veux ma revanche, si tu m'entends, François. Je veux ma revanche parce que je suis pas sûr que tu aurais gagné la deuxième quand j'aurais sideboardé in mes Red Elemental Blast.
On s'en va vers la carte de la semaine donc.
Bon, ben oui, let's go.
Parfait. J'avais très hâte, hein, c'est moi qui l'ai choisi. On remercie encore une fois nos amis de l'Abyss au 4490 Jean Talon Est. Et on remercie aussi Bone qui nous a fait le beat. Vous pouvez aussi pour l'Abyss aller au www.labyss.com. Let's go, beat à Bone, c'est la carte de la semaine. Hey, cette semaine, c'est moi qui l'ai choisi. C'est The Best of Them All. Hey, ça va être c'est le leader of the pack. C'est le chef des chiens. Il donne plus un à tous les chiens. Ils ont finalement fait un leader de c'est capoté. Puis en plus, il coûte un colorless, un blanc. Il fait que tous les autres chiens que tu contrôles ont plus un. C'est un chien. Et à toutes les fois qu'il attaque, tu peux prévenir tout le dommage de combat qui est fait à lui. Puis à tous les chiens que tu contrôles, tous les chiens sont invulnérables, les chiens. C'est qu'on est content. Puis?
Ouais.
Bon, ben ça, écoute, ça sera ça pour la carte de la semaine. Merci beaucoup, tout le monde. Hein. Merci de votre motivation, les gars. Vous savez comment j'ai beaucoup de respect pour les chiens. On va réécouter le beat à Bone, puis on s'en va dans le lore de Kaldheim. fait que là, on va en apprendre encore sur Kaldheim. Là. Il nous manquait des affaires, là, puis des uncommon, puis tout. Là.
Ouais, ouais, on va boucler la boucle aujourd'hui. On va faire le lore des petites communes. Non. Il restait deux sagas. Je me suis dit qu'il fallait les faire, parce que, écoute, hein, ouais, j'avais dit que j'allais couvrir toutes les sagas de Kaldheim. C'est ce que je vais faire. T'as le, tu sais, les derniers épisodes, j'avais surtout présenté les différents realms de Kaldheim. Là, ce qu'on va voir, c'est un peu plus comme l'histoire qui implique les Planeswalker. Okay. Comme on avait mentionné dans le premier épisode, t'as Tybalt, le démon Tybalt de Innistrad, qui s'est pointé sur Kaldheim, puis il a pris la place de Valky, le dieu des mensonges. Wow. Donc, tu sais, vous savez, là, le dieu Valky, là, en dos de la carte, c'est une pizza. Hein. C'est un vire de bord, puis c'est Tybalt, le Planeswalker. C'est comme, ha, 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 tout ce temps, il était un cosmique imposteur. La carte Icebind Pillar, qui est le snow artifact dans le bleu, qui est deux colorless, un bleu pour, tu tapes un snowland pour taper un artefact ou une créature. Vous voyez sur le dessin, l'espèce de glace qui entoure un pilier, puis il y a des chaînes.
Ouais.
Puis dans le flavor text, ça dit « Oh Valky, je suis déçu de toi. Comment qu'un dieu du mensonge peut être aussi naïf? »
On dirait qu'il y a quelque chose au milieu du pilier. Ouais,
c'est Tybalt qui a emprisonné le dieu Valky dans un pilier de glace. C'est ça que la carte ben oui, représente.
C'est Tybalt là, qui dit « T'as vraiment été loser.
» Oui. Oui, il dit t'es le dieu du mensonge, puis t'as été naïf, tu m'as écouté parler. Donc, on présume que.
Il est venu dans Kaldheim tuer Magic. Kidnapper le dieu oui. des mensonges.
Vous voyez la carte Tybalt Trickery, il y a des chaînes autour des mains.
Ouais.
Sur le dessin. Puis, dans le fond, là, toutes les cartes qu'on voit des chaînes dans. Il y en a deux, trois dans Kaldheim. C'est des spells de Tybalt, des spells de Planeswalker pour. Faire ces mischievous things, là, ces mauvais coups. Fait que dans le fond, Tybalt emprisonne Valky dans la glace, puis il met son manteau. C'est pour ça qu'il devient, dans le fond, le dieu des mensonges. Puis il se lance là, vraiment sur un genre de gros rampage machiavélique. Il fait le tour, c'est un planeswalker, fait qu'il peut aller où il veut. Il fait le tour des 10 royaumes de Kaldheim autour de l'arbre. Il va sur Gnotvol, tu sais, j'avais mentionné sur Gnotvol, c'est les trolls qui sont, ils dorment pendant des millénaires.
Ouais.
Ben, Tybalt se met à réveiller les trolls pour les mettre en crise. Ça, c'est d'ailleurs le trailer qu'il y a sur YouTube.
Bon plan.
Ah, ben oui. Très bon plan. Sur Skemphor, il va dire à l'oreille, là, tu sais, le roi Harald que j'avais mentionné, qui veut réunir les elfes noirs et les elfes verts. Puis là, il dit, ce serait le temps là, de renverser les Scotty. Sur Sortland, il dit la même chose au géant que j'avais parlé la semaine passée, qui veut réunir les deux clans. Tu sais, fait qu'il fout le bordel, comme on dit.
C'est comme s'il y avait un plan, là.
Ouais, puis toi, Tommy, mettons, là, t'es un Planeswalker qui fait des mauvais coups, tu sais, des mauvais coups interplanétaires. Puis je te dis, c'est quoi la pire affaire qui peut arriver dans un monde viking?
Que
la pire, la pire chose.
Ah ben c'est l'espèce de voyons,
la paix.
C'est eux autres qui ont inventé ça, l'Armageddon, c'est eux autres.
C'est le Ragnarok.
Ça, c'est ça, exactement. C'est la même
donc,
affaire. Mais
j'avais mentionné comme la carte Doomscar, là, qui était quand les plans se rentrent un dans l'autre dans le monde de Kaldheim. Fait que dans le fond, ce que Tybalt veut, c'est qu'il y ait un gros Doomscar, des 10 ensemble. On ne sait pas ses motivations de pourquoi il voudrait faire ça. Néanmoins, pour arriver à ses fins, c'est la saga de Trickster God Heist.
Heist.
Comment?
Heist.
Heist, oui, excusez mon anglais du mardi. donc ça, c'est la saga bleu et noir. C'est deux colorless, un bleu et un noir. Le premier chapitre, tu échanges le contrôle de deux créatures. Là, on voit, là, c'est dans le fond, c'est Tybalt qui prend la place de Valky. Le chapitre 2, tu peux échanger le contrôle de deux non-basic, non-créatures permanents that share a card type. Puis le troisième chapitre...
Comme un artefact, mettons.
Ouais, ça va être comme un artefact. Roche contre son équipement. Là.
On va aller la voir en plus gros. Le artwork est vraiment intéressant sur Trickster God Haste. C'est...
Excusez.
C'est quand même pas pire qu'il y ait un pool de Planeswalker comme ça à ressortir. Mais là, j'ai bien hâte de savoir pourquoi le Tibalt, là, c'est quoi
qu'il veut, dans le fond?
Ben oui.
Ben c'est ça. On n'est pas trop sûr. Si on voit sur la carte Trickster God Ace, le artwork en haut, le premier chapitre, on voit que Tibalt, on voit c'est le manteau là, du God Valky. Là. Dans le fond, c'est Tibalt déguisé en Valky. Il va parler au nain, le nain forgeron qui est Cole the Forge Master, qui a forgé la Sword of the Realm, qui est le légendaire artefact.
J'aimerais ça, dans cette première étape de la saga de laquelle tu es en train de nous parler, vendre mes parts en Cole de Forge Master à ce moment-ci. J'aimerais vendre.
Non, faut acheter, c'est le temps d'acheter.
Ben non,
c'est le temps d'acheter, oui.
Je te vends toutes mes parts en colle, si tu veux. Ça fait un prix d'ami.
La deuxième étape, c'est dans le fond, une fois que l'autre a fini de forger l'épée, il s'en débarrasse, tu sais, parce que comme Eman a dit, quand tu fais fabriquer une arme spéciale, tu veux tuer celui qui l'a faite parce que sinon il va faire une arme pour contrer son arme spéciale. Fait que Cole the Forge Master se fait trucider par Tibalt.
C'est dangereux. Fabricant d'armes, là, c'est un métier dangereux.
Oui. Puis le troisième chapitre, on voit que dans le fond, c'est le dieu Valky qui révèle qu'il était en fait Tibalt. On voit le rouge en bas. Là. Ah, ah. Puis là, tu sais, il y a le Sword of the Realm, la grosse épée légendaire dans la main qui glow. Moi, ce que j'aime, c'est que la saga est traversée par le World Tree. Tu vois?
Ouais.
Petit détail qui est quand même cool. Puis je te porterai attention sur le symbole qu'on voit au sommet en haut ici. Espèce de trilogue.
Ça a l'air d'une hache.
C'est le Colossus à Laval.
À Shadow of Colossus.
En tout cas, retenez ce symbole-là, on va le voir sur d'autres cartes. La carte Open the Omen Path, c'est que l'épée, le Sword of the Realm, ça te dit sur le flavor text, là. Lis-nous le flavor text du Sword of the Realm, Tony, tu le vois-tu bien?
Ben oui, je le vois certain. It cuts through the cosmos itself, carving a new Omen Path between the realms.
Fait que les Omen Path dans le monde de Kaldheim, c'est comme ça que les gens voyagent entre les realms. Puis Tibalt se sert de cette épée-là là, pour se promener, comme j'ai mentionné tantôt, puis foutre le bordel. La carte Open de Omen Path, qui est l'instant, deux colorless, un rouge que tu choisis, soit que tu fais deux mana de n'importe quelle couleur pour casser les créatures ou des enchantements. Ou toutes tes créatures gagnent plus 1, plus 0. On voit sur la carte, là, c'est dans le fond Tibalt qui se promène. Il a son épée dans la main là, qui glow. Puis le feu que vous voyez autour, il a la forme du serpent Koma. Koma, c'est le gros serpent légendaire que j'avais parlé, là, qui tourne autour de l'arbre. Fait que dans le fond, c'est vraiment. Puis plus qu'il est agité, le serpent, plus que les realms se rentrent un dans l'autre. Fait que c'est, le but de Tibalt, c'est que les 10 royaumes s'imbriquent un dans l'autre.
OK.
Je trouve que c'est un peu un rip-off de Alara.
Ben oui, c'est ça que j'étais pour dire. Il y a un feeling de quand c'était des shards différents. Là, ce sont
très différents. Sauf que, tu sais, Nicole Bolas dans Alara, ce qu'il voulait, c'était que c'est réunir 10 affaires qui étaient séparées. Là, c'est plutôt comme créer un genre de chaos. C'est le Ragnarok, dans le fond. Là, c'est la guerre de la fin des temps.
Mais on ne sait pas encore c'est quoi qu'il veut, Tibalt. Fait qu'on ne sait pas.
On sait juste foutre la marde pour foutre la marde.
Ben, c'est ça. Ben, il a tout le temps été présenté dans les vieux sets de Magic, Tibalt. En fait, c'est pas un démon, c'est un diable. Là. C'est très différent. Dans le monde de Innistrad, Tommy rit.
Chose de geek.
Ouais.
Tommy, c'est pas de moi, là.
Il va falloir que
je mette mon chapeau de nerd.
Les démons sont chaotiques, Ivo.
Et voilà.
Mais j'aime ça, moi, Devil.
Les creature type Devil dans Magic, hein? Parce qu'on est dans Magic. Là. Je sais qu'un démon et un Devil, c'est la même chose dans la vraie
vie. Player of the Eightbound.
Mais à Magic, les Devils, c'est le creature type rouge. Les démons sont creature type noir. Wow. Puis, tu vois, le Mayhem Devil, là, c'est quand il était multicolore, il était dans le noir et dans le rouge. Mais sinon, là, vous voyez, la majorité sont dans le rouge.
Moi,
les Devils sont sur Innistrad puis sur Ravnica dans le clan des Rakdos. Tandis que les démons, généralement, ils vont être dans les couleurs noires. Ils ont brisé ça récemment parce que Kaldheim, c'est le premier set où tu as des démons dans le rouge. Néanmoins.
Plus rien de sacré.
Oui. Les devils, leur particularité, c'est de faire des souffrances. Tandis que les démons, ils font des pactes, ils se trouvent des sujets. Les devils, c'est tout le temps représenté comme ils viennent foutre le bordel, ils mettent le feu partout. T'sais. Il y a une petite nuance à voir. Puis Tibal, c'est un devil que son spark s'est activé. Puis, dans le fond, c'est se promener à travers le multivers puis faire ce que les devils font sur Innistrad, mais à travers le multivers. Foutre le bordel. C'est un vilain parfait pour le Gatewatch. Parce que, comme j'avais mentionné, qui est venu sur Kaldheim pour explorer, c'est Kaya, qui est membre du Gatewatch. La Planeswalker blanc et noir. Puis, t'as un autre Planeswalker qui trouve que ça n'a pas d'allure que le dieu Valky, parce que, tu sais, les gens ne savent pas que c'est Tibal, c'est le dieu Valky qui fout le bordel. Tivorkel, qui est le Planeswalker vert de Skenfar. Tivorkel, lui, il trouve ça bien correct que les elfes verts ne se mélangent pas avec les elfes noirs dans le monde de Skenfar.
Ségrégation.
C'est un antagoniste à... le roi Harald.
C'est pas des frères?
Ouais, c'est comme dans n'importe quel.
Ouais, non, c'est ça, mais. Je rajouter au lore.
dans le fond, Kaya a trouve en Tivor un allié pour combattre le Valky, qui est en train de foutre le bordel. Puis il se rend compte que c'est Tibal. En réalité, c'était Tibal. La saga Fall of the Imposter, un colorless, un vert, un blanc. C'est la saga de l'union entre Kaya et Tivor. Vous voyez, ils sont en train d'escalader l'arbre. On le voit sur le artwork. Puis on voit Tibal qui crisse le camp en bas. Vous voyez, avec la
longue de l'eau. Oui.
Donc, c'est chapitre 1 et 2, tu mets un counter +1/+1 sur une créature. Dans le fond, ça représente le friendship, l'alliance entre les deux. Là. Parce que c'est ça que Tivor qu'elle fait, garçon. +1, là, pas ta +1/+1 counter, on up to one target elf. Puis elle met un Ghost Form Counter qui, tu sais, comme dans le fond, ils unissent leur pouvoir. Puis le chapitre 3, c'est exil une créature que le Greatest Power Among Open End. Dans le fond, c'est Valky sous sa forme de créature. Là. Puis il se rend compte en réalité, derrière, c'était le Planeswalker Tibalt. Regarde en haut de la saga, Tommy. Remarques-tu un symbole?
Comme un épée. Hein?
Ouais, mais autour.
Autour de l'épée.
Autour de l'épée, là?
Ouais, ben même dans l'espèce de masque qu'il y a, là.
Ça a l'air d'un masque, hein?
Ouais. L'arbre, il me fait penser à Aku dans Samurai Jack depuis tantôt.
C'est vrai, hein?
Ouais.
Je l'aime pas. Aku, il était cool, là, mais en tout cas, lui, je le trouve weird, là. Là, c'est quoi, tu vas nous sortir un... Attends un peu, là. Wow. Reveal. Big reveal.
Hey, attends, on n'est pas encore rendu là.
Ah, je suis sénère, Jason, donne-moi un break.
Okay. Kaya se rend compte qu'il y avait... parce que Kaya, dans le storyline de Magic, elle a rencontré Tibalt pendant War of the Spark. Tu sais, ils se sont battus du même bord contre Nicole Wallace. Ça fait qu'elle le connaît. Elle se rend compte cependant qu'il y a de quoi de bizarre en arrière de ses agissements. Puis elle se met comme à... c'est une genre de Sherlock Holmes, là, Kaya. Là, elle était sur le plan de Ravnica, puis c'est tout le temps à résoudre des mystères. La carte Dogged Pursuit, où ce qu'on voit Kaya dans une caverne, ça c'est un enchantement, 3 colorless, un noir, au beginning de ton end step, chaque adversaire perd une vie, puis tu gagnes une vie. Lis-nous le flavor text, Tommy.
Kaya has stalked countless horrific foes, but never one that killed with such callous precision and twisted creativity.
Ouais, elle se rend compte qu'il y a un monstre sur Kaldheim qui fit pas dans le décor. Puis t'as comme les indices là, que j'ai mentionnés, les espèces de masques sur sagas Trickster Goddess que c'était au-dessus de Tibalt, puis au-dessus de l'arbre là, qu'ils sont en train de... Ce qu'elle se rend compte, en fait, c'est que sur le plan de Kaldheim,
C'est quoi cette chose?
Donc, Vorinclex, Monstrous Raider, qui tu seras d'accord avec moi, Eman, est notre véritable carte de la semaine cette semaine.
Ben oui, ben oui. Ben oui.
Parce que ça, ça mange 10 chiens pour déjeuner.
Ouais, fuck ton lord de chien, on en reparlera plus tard. Là. Non, non, ça, c'est la carte de la semaine.
Ça, c'est la carte de la semaine. Vorinclex, Monstrous Rider, 4 colorless, 2 verts, Trample, Haste. Si tu mets un ou plus counter sur un permanent ou un joueur, tu vas doubler le nombre de counters que tu mets à la. Dans le fond, ça double le nombre de counters qui est placé. Puis si un adversaire met un ou plus counters sur un permanent ou un joueur, ça diminue de moitié le nombre de counters que ton adversaire met.
Rounded down, ce qui est très important.
Rounded down.
Fait que si c'est un, c'est zéro.
C'est un 6-6. Vous voyez, je l'ai en plus. Ils nous ont gâté Wizard of the Coast. Il a la version en anglais, mais tu peux aussi pogner dans le pack la version en langage phyrexien.
Ça a-tu aidé à déchiffrer le phyrexien, ça? Ils ont-tu rajouté des lettres qu'il n'y avait pas?
Ils n'ont pas encore fini. C'est sûr qu'il y a des nouvelles lettres qui se sont ajoutées.
Ouais.
Ils n'ont pas encore réussi à régler la patente. ça a ajouté un V, notamment.
Ah, bon, tu vois.
Il n'y a pas de flavor text. C'est le texte, c'est seulement les deux mécaniques. La nouvelle affaire qu'ils ont ajoutée, c'est qu'il y a un creature type maintenant phyrexien, ce qu'il n'y avait pas avant.
Ah. C'était horreur souvent, ouais.
Ouais, ou ouais. Prétor. C'était un Prétor avant.
Vorinclex, Monstrous Rider est un Phyrexian Prétor. Je vais vous faire le lore de Vorinclex tout à l'heure. Moi, quand ça a sorti, c'est Marc-Antoine qui l'avait trouvé. Ça avait leaké au mois de décembre.
Ouais.
Tu remarqueras la face, Tommy? On a vu ça. Regarde la face de Vorinclex.
On l'a vu tantôt en l'arbre, puis avec les logos en haut. Comment ça, t'as le temps de remarquer ces affaires-là?
Ouais, parce que je suis un geek, là, puis on se partage les infos par Twitter. Okay. Mais là, j'étais comme, voyons donc, ça n'a pas de sens. Parce qu'ils ont tout le temps mis clair dans les histoires que Phyrexien ne pouvait pas avoir de Spark. Parce que tous les Phyrexiens sont des machines reconstruites avec des parties. Tu sais, c'est des genres de Frankenstein. Gens,
c'est beaucoup c'est comme les
bio-zombies. Il n'y a pas de Phyrexien vivant. Puis je trouvais que ça fait que par définition, ils ne peuvent pas avoir de Spark. Ils n'ont pas d'armes, puis ça ne fitait pas. Puis ils ont tout le temps dit qu'il n'y avait plus de portal depuis le Mending. Fait que comment ce Phyrexien, comment un Prétor se retrouve à se promener puis à foutre de la marde sur Kaldheim, puis à être un peu le manipulateur derrière Tibalt, parce que Vorinclex est extrêmement intelligent. On va faire un peu rapidement le lore de Vorinclex, puis on va comprendre qu'est-ce qu'il fait sur Kaldheim.
Là, ça allait bien, là. Si Tibalt était en train de pogner le party, puis les géants se pardonnaient, puis les elfes restaient chez eux, puis là, lui est arrivé, puis il a tout brassé, là. J'étais en tabarnak. Ça allait bien, là.
Ça me fait un peu. Je me suis tout le temps dit qu'à un moment donné, il va falloir faire des épisodes de lore sur les Phyrexiens plus complets. Puis Wizard m'a un peu pris de court. Tu sais, l'année passée, j'étais content qu'il n'y avait pas de Phyrexien l'année prochaine de prévu. Il semblait pas y avoir de traces de New Phyrexia. Même si on veut donner des indices dans Terros Beyond Death.
Ouais.
Il commence à déposer dans chacun des sets des indices que les Phyrexiens ont commencé à voyager. Il y a une carte dans Zendikar Rising où on voit l'huile noire, ce qui est un aura dans le noir, qu'on voit le fameux huile noire phyrexien. Tu avais le Shadow Spear de Elspeth dans Terros Beyond Death qui dégoulinait de l'huile noire. Noir. C'était passé par les cauchemars.
C'est le rêve de Narset, là, Narsil.
Non, c'est Ashiok. Ashiok a fouillé dans les mauvais rêves de Elspeth. Fait que, tu sais, ils ont déposé quelques indices un peu partout. Puis, dans le fond, c'est un peu comme la pandémie. Tu sais, la pandémie au mois de janvier, février, l'année passée, on voyait quelques trucs dans les nouvelles en Chine. T'sais. Mais ça s'approchait, là. Mais ça, c'est un peu le même effet qu'ils font ici. Vorinclex.
C'est le COVID, tu sais.
Vorinclex, il vient de New Phyrexia, qui est Nirodin qui a été transformé en nouvelle Phyrexie dans le bloc de Scars of Nirodin.
Ouais. Ça, c'est Karn qui n'a pas fait son ménage. Il avait dit de ramasser ses traîneries. Puis tu vois, c'est quoi
exactement.
Qui est arrivé? Le Mirari, c'est tout ramassé, corrompu. Puis là, il est rendu avec du Schnaggers partout. Ferme ça, vent, on part à d'ailleurs. Ah, écoute, là, c'est ça.
Vorinclex, c'est le chef des Phyrexiens verts. Fait que pas mal toutes les cartes là, dans les vieilles cartes de Phyrexie, de New Phyrexia, mentionnaient Vorinclex dans les Flavor Text, ces choses-là. Par exemple, là, sur Rotted Strix, qui est juste un Beast 3-6, ça dit que Vorinclex n'a pas de grand plan. L'huile fait la job, elle change les créatures dans des prédateurs de mieux en mieux. Puis sur Unnatural Predation, qui est juste un instant, ça dit c'est une citation de Vorinclex. Dans le fond, c'est comme une affirmation de son agenda politique. La domination par les plus forts, c'est la seule chose qui... Oh, un instant, s'il vous plaît.
Mesdames et messieurs, Fouin!
Une interruption de Chinook.
On va avoir un terrain basique en bonne et due forme.
Je craignais qu'il n'allait pas se pointer. Et pour lui, il dormait, hein?
Non, ben c'est parce que j'ai enregistré la porte fermée. Mais
il est poli.
Son instinct chinois qui était trop à jour. Là,
c'est... Fait que là, c'est l'agenda politique de Vorinclex.
Oui, puis Vorinclex, c'est vraiment drôle, c'est qu'il déteste les... selon lui, il ne doit pas y avoir de sentience. C'est les Phyrexiens ont le but de que tout doit être Phyrexien.
Ah oui,
c'est leur perfection.
Tant qu'on se débarrasse pas de la malédiction de la conscience, on va devoir endurer ces résultats grotesques ou ces implications grotesques.
Ouais, c'est la quote de Vorinclex sur Reluc Putrescence.
Ben, commence donc par toi, esti. T'en as, toi, de la conscience? C'est quoi ton crise de problème?
Puis, dans Kaldheim, il y a une carte, dans le fond, à un moment donné, Kaya rencontre Vorinclex, puis... Il y a le combat final, là. C'est comme le combat de la fin, c'est le Kaya Onslaught. Deux colorless, un blanc, une créature gagne plus un double strike until end of turn, tu peux le foretell. Puis Kaya a dit ton chemin s'arrête ici, puis on voit qu'elle est en train d'y rentrer ses couteaux dans la tête. Parce que Kaya, je l'ai déjà mentionné, c'est une tueuse de monstres, c'est une Ghostbuster. Ouais. Fait que ça fit qu'elle trucide Vorinclex.
Elle gère les armes aussi pour les Orzhov sur Ravnica, me semble, elle avait pris la place.
Ouais, ouais. C'est tout. Alors, retournez voir nos épisodes là, 27-28.
Bon,
mais c'est ça. Fait que c'est Kaya à but Vorinclex. Mais tu sais, la révélation que les Phyrexiens sont maintenant sur Kaldheim ouvre plus de questions que de réponses. Puis,
ils sont pas juste sur Kaldheim. Là, s'ils peuvent sortir, ils peuvent aller n'importe où. Là.
Ben c'est ça.
On les a vus à Kaldheim, mais ils peuvent aller ailleurs. Là. Ils peuvent aller au McDonald's, au service à l'auto. Ils peuvent se faire livrer des shit. Là. On est dans la merde, man.
Sur la page de Wizard of the Coast, là, ils ont mis comme un petit texte explicatif sur Vorinclex.
J'avais choisi ma carte la semaine.
Ça dit Vorinclex est arrivé sur Kaldheim. Comment Vorinclex est arrivé sur Kaldheim n'est currently unknown. On sait pas comment. Mais la méthode, c'est un mystère. Les parties organiques de Vorinclex ont été détruites pendant son voyage. Vous voyez comme ça, que vous regardez en dessous du masque, là. Tout ce qui reste, c'est genre c'est comme squelettique.
Ouais, ouais.
Est-ce que tu te souviens, Tommy Godette, c'est quoi le seul truc qui permet de voyager entre les plans mais qui n'accepte pas de matière organique?
C'est pas le Planar Bridge.
Ouais, le Planar Bridge, c'est selon moi la façon que Vorinclex est venu. Mais en fait, que présentement les Phyrexiens se répandent à travers le multivers. Parce qu'à la fin de War of the Spark, la carte, on sait que de la carte One with the Machine, le Tezzeret, là, qui était l'agent de Nicole Bolas, aussi un Planeswalker.
Il est rendu gentil.
Non, Tezzeret n'a jamais été gentil.
J'y avais envoyé.
Trust-les pas.
Tu avais envoyé des bitcoins, hein? C'est pas le bien. Des fans de bitcoin, là, tu peux pas truster ça. Mais.
Okay, ouais.
C'est ça, tu sais, dans Kaladesh, on a parlé de l'épisode 108, là. C'est le Planar Bridge avait été inventé par Tezzeret qui contrôlait le consulat. Puis à la fin du storyline, il avait greffé le Planar Bridge sur lui-même. Il l'avait utilisé pour aller voler le Immortal Sun sur Ixalan. Puis avec ça, ils avaient envahi Ravnica. On voit le Tezzeret Master of Bridge là, qui était un Planeswalker dans War of the Spark avec les Eternals de chaque bord de lui, là, les Dreadhorde. À la fin du War of the Spark, qui voit que Nicole Bolas est en train de perdre la guerre, Tezzeret se pousse. Puis vu qu'il contrôle le Planar Bridge, on sait pas où il est allé, mais selon moi, il est allé chercher des alliés sur New Phyrexia. C'est comme ça que c'est en train de se répandre. Je lance la petite théorie de
de théoricien d'histoire de Magic. Je pense que en 2022, ça va être le big reveal, là, le big finally. C'est les Phyrexiens vont envahir un peu partout. Puis Tezzeret va être derrière ça. Ou un simple puppet là, des Phyrexiens, probablement aux côtés de Tibalt. C'est ce que, selon moi, ce qui va arriver en 2022. Je lance un petit...
Ashtiok.
Ashtiok, je pense qu'il va se mettre du bord du Gatewatch. Je pense aussi que le prochain set, là, qui est Strixhaven School of Magic, qui est l'espèce de Poudlard, là.
Ouais.
Je pense qu'on va voir un peu de... Tu sais, ça va être comme le Voldemort de ce set-là. Je pense qu'on va voir beaucoup de Phyrexiens dedans, qui sont en coulisses dans cette école-là, parce que c'est une école de magie, le prochain set. T'as cinq classes, sont les cinq couleurs. Moi, je pense qu'on va voir un peu de ça. Est-ce qu'on va revoir le mana symbole Phyrexien? Je suis pas sûr, parce que c'est pas mal trop fort. Mais je sais que Mark Rosewater a tout le temps dit que pour lui, les Phyrexiens, il faut tout le temps que ça tourne autour du concept de tu perds de la vie pour gagner de la mana.
Okay.
C'est comme ça depuis Antiquities dans les années 90. Fait que ça promet.
Wow,
ben oui. Ouais.
Hey, la.
Mais c'est intéressant. Mais Varian Eclipse, c'est une.
Ouais, on vient.
C'est une grosse carte, là. C'est une grosse carte. Puis j'ai trouvé ça bizarre qu'il amène ça dans un set avec des sagas, dans un standard où il y a deux sets où est-ce qu'il y a des sagas, parce que ça fait des drôles d'interactions avec les sagas, parce que ça speedrun ta saga à toi. Puis ça arrête complètement les sagas de tes adversaires parce que tu peux pas mettre de counter dessus.
Ah, effectivement. Ben oui.
Ouais.
Ben
oui. Ouais, ça bloque les sagas, oui.
Ça a plein de drôles d'interactions avec toutes sortes d'affaires. Là. Si tu mets un Planeswalker en jeu pendant que Varanclex est là, ben tu doubles la quantité de loyauté qui est dessus. Fait que tu peux souvent le ult en partant. C'est vraiment. Il y a plein d'affaires weird avec ça. Les Poison Counters.
T'imagines, ils ont bâti cette carte.
Le gars qui donne des Poison Counters puis qui fait que tous les monstres de touch, ils donnent des Poison Counters. Fait qu'il y a des affaires certains.
Ouais.
Ah, t'as de la synergie à faire avec Proliferate avec ça, là.
Ah oui.
Parce que tu doubles ton Proliferate.
Fait qu'il y a toutes sortes de niaiseries à faire avec ça, je pense.
Effectivement. Ben,
c'est un doubling season sur un 6-6. Puis à faire, c'est super facile, ramper. Fait que tu peux sortir au tour 4, là, des fois. Là.
Effectivement. Oui. C'est surtout dans le vert, on va se dire. Là. Écoute... Bon, ben, en tout cas, vous avez gâché ma carte de la semaine, puis tout, mais au moins.
Quelle carte de la semaine?
Oui, la carte de la semaine, c'est super cool, c'est Varanclex.
Le chien s'est fait manger. Ben, merci beaucoup, Jason. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir participé à cette émission de Terrain Basique. On vous rappelle qu'on a de la merch disponible hein, sur la page Facebook. Vous pouvez aller aussi sur Spotify pour nous trouver et nous partager à votre mère, parce que c'est sûr que votre mère adore Magic the Gathering. Tenez-vous au courant aussi, hein, on a inclus le lien vers notre Discord dans la description du show. Venez nous rejoindre, c'est pas mal cool.
Comme venez mettre de l'action, nous envoyer vos decklists, vos questions, partagez vos mimes.
Ces affaires-là.
Ah oui.
Sinon, on a la page Facebook aussi hein, que Jason gère avec magie. Suivez-nous sur YouTube. Je pense que c'est pas mal ça. Hein. Merci tout le monde. Merci à Martin Godette au montage, à Bono Beat et à l'Abyss. Mon nom est Tommy Godette et comme chaque semaine depuis 117 jours, je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascou possible.
De la famille H2O Web Media.